Écoutez-nous sur internet dw.com/français.
En effet, à Abidjan, nous avons organisé un meeting en tant que groupe parlementaire d'opposition, donc les trois groupes ensemble au sein d'un collectif, le groupe du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le groupe du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire et le groupe indépendant Vox Populi. Donc c'était la première fois que nous organisions un tel événement, mais c'était important et c'était même à mon avis nécessaire parce que voyez-vous, il était pour nous primordial d'informer l'opinion nationale, l'opinion internationale, d'informer nos constituants de ce qui se passe en fait au sein de nos institutions. On assiste à beaucoup de recul démocratique sur des principes élémentaires, hein, c'est-à-dire que l'opposition est bâillonnée, la justice est aux ordres, les citoyens même ne peuvent pas jouir de leurs libertés publiques les plus élémentaires. Pourtant, la Constitution de 2016 les garantit. Donc notre meeting, c'était pour relever en fait que malgré les efforts que nous en tant que députés, nous sommes 95 députés de l'opposition, malgré nos efforts permanents pour des lois plus justes, des efforts permanents pour une bonne gouvernance, pour que l'exécutif se rende compte qu'il faut rendre des comptes aux citoyens. Malgré tous ces efforts-là, la plupart de nos initiatives ont été rejetées, voire même ignorées. Et donc, nous sommes finalement arrivés à une sorte d'impasse au niveau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Donc, nous avons voulu, en nous associant aux partis politiques qui portent certains donc des groupes parlementaires, mais aussi à d'autres partis politiques de l'opposition et aux organisations de la société civile, nous avons voulu expliquer que trop, c'était trop et qu'on n'entendait plus cautionner les dérives actuelles.
L'ONU a appelé le 26 juin dernier les Ivoiriens à redoubler d'efforts pour que l'élection présidentielle de 2020 qui s'annonce tendue soit synonyme de paix. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, effectivement, l'ONU a exprimé ses craintes tout dernièrement. Mais l'ONU n'est pas la seule organisation à s'inquiéter. Et je dirais que ce n'est pas que la communauté internationale qui s'inquiète. L'opposition ivoirienne s'inquiète. L'opposition ivoirienne s'inquiète parce que l'État de Côte d'Ivoire ne cherche pas à garantir, en fait, des conditions qui pourraient permettre des élections transparentes où il y aura les suffrages des populations seront réellement pris en compte. Ces élections qu'on n'a jamais vues d'ailleurs en Côte d'Ivoire parce qu'on n'a jamais eu de transition ou de transmission du pouvoir d'un régime à un autre ou d'un président à un autre sans qu'il y ait heurte en Côte d'Ivoire. Je vous le rappelle. Donc, nous, en tant qu'opposition, nous voulons que l'État de Côte d'Ivoire, que le président de la République et que le gouvernement acceptent les réformes imposées par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous savez qu'une décision avait été arrêtée, mais que jusqu'à présent, le gouvernement n'entend pas respecter cette décision. Et la très grande majorité des Ivoiriens veulent que tout ce qui a rapport avec le processus électoral soit complètement réformé. Il ne s'agit pas de faire un toilettage en surface, comme le propose actuellement le gouvernement. Il faut éviter de recréer les situations conflictuelles. Il faut éviter de recréer des causes d'affrontement.
Plusieurs figures de la société civile et de l'opposition politique ivoirienne estiment que le pouvoir en place est en train de se radicaliser. Est-ce que vous partagez ce point de vue ?
Alors là, quand vous parlez de radicalisation, c'est presque un euphémisme, hein ? Parce que ici, on pourrait même plutôt dire que c'est une autocratisation. On voit régulièrement que les citoyens sont empêchés d'exprimer leurs opinions, qu'il est porté régulièrement atteinte aux libertés publiques, aux droits civiques, que l'opposition est bâillonnée, qu'il y a des menaces. En tout cas, le constat est regrettable. Le pouvoir actuel entend user de tous les moyens, mais quand je dis tous les moyens, je parle même de moyens non conventionnels, pour continuer à pérenniser ce système, pour continuer à favoriser le clan du président Alassane Ouattara. Et ils ont déjà commencé à préparer les consciences, figurez-vous, puisque dans la plupart de leurs meetings, ils expliquent que les élections de 2020 sont déjà bouclées. Il faut entendre par cela que les résultats sont déjà connus. Alors vous imaginez bien qu'après des élections en 2010 qui ont abouti à un conflit post-électoral violent, plus de 3000 morts ont été enregistrés, entendre 15 mois avant que les résultats sont déjà connus et que les élections sont déjà bouclées, ça peut effectivement effrayer, inquiéter et surtout, ça peut amener l'opposition que nous sommes à vouloir lutter pour que cela n'arrive pas.
À l'origine, vous êtes issu du PDCI, l'ancien parti au pouvoir, dirigé par Henri Konan-Bédié. Est-ce que vous avez une idée sur l'identité de la personnalité qui va porter le flambeau de cette formation politique à l'élection présidentielle de l'année prochaine?
Alors c'est vrai, je suis militante du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, mais actuellement je suis élue en tant qu'indépendante, donc j'ai un mandat indépendant que je respecte. Et surtout, je ne suis pas dans les organes décisionnels, je ne suis pas membre de la direction du parti. Donc j'aurais du mal peut-être à répondre à cette question. Je vous invite à porter cette préoccupation directement au niveau de la direction du PDCI-RDA. Normalement, il était question, et ça, on l'entend régulièrement dans les presses proches de ce parti, que des primaires soient organisées. Et ce serait peut-être même très sain pour la démocratie au sein du PDCI-RDA, mais je ne pourrais pas vous répondre. Vraiment, il faut que vous vous dirigiez vers eux, ce sont les voix autorisées pour parler au nom de ce parti.
Est-ce que vous-même, Yasmina Wanyen, vous serez candidate lors de cette élection présidentielle?
Alors, à 15 mois des élections, tout le monde se demande quels seraient les éventuels candidats. Et c'est vrai qu'il y a de nombreuses compétences, il y a de nombreux profils en Côte d'Ivoire qui pourraient potentiellement gérer le pays, ça c'est clair. Mais déjà, moi j'aimerais inviter les populations à ne pas attendre un messie, vous savez, à ne pas attendre une sorte de figure providentielle là, dont on verrait l'avènement à partir d'octobre 2020 et que cette personne-là pourrait redresser tous les torts et pourrait d'un claquement de doigts ramener le pays vers l'émergence, vers le développement. On a quand même eu pendant près de 20 ans, parfois même je vois large, je dis 30 ans, une fracture sociale qui s'est installée. On a eu des amours aussi entre les populations et la classe politique. On a eu pas mal de dettes qui se sont accumulées d'un point de vue économique, malgré les belles performances qu'on affiche à l'international. À l'intérieur, il y a eu une réelle paupérisation et il y a un vrai recul en termes d'infrastructures. Donc, c'est pas l'homme providentiel qu'il faut attendre. Il faut plutôt qu'avec une sorte de sursaut collectif, on assiste à beaucoup plus d'engagement citoyen. Il faut qu'on se rende compte que tout le monde peut œuvrer à la construction de la Côte d'Ivoire, mais d'une autre Côte d'Ivoire en fait. Une Côte d'Ivoire où il y aura une meilleure répartition des richesses, une Côte d'Ivoire où il y aura une meilleure implantation de la démocratie, une Côte d'Ivoire où finalement les fondamentaux et les valeurs seront bien implantés et seront défendus par tous les citoyens. Moi, pour ma part, je suis députée et je suis toujours au service de mes populations. Je réponds toujours à l'appel de mes populations. J'essaie de rassembler autour de moi mes concitoyens. Je me bats pour l'unité nationale. Je dois le rappeler, je le rappelle également à la classe politique, que c'est souvent les ambitions à la magistrature suprême, là, qui, parce qu'elles sont mal contenues ou parce qu'elles sont mal exprimées, finissent par créer un contexte d'adversité permanente et puis finissent par être à la base de clivages entre les populations, entre les filles et les fils de ce pays. Et moi, j'appelle vraiment à beaucoup plus d'union. J'appelle à ce que l'intérêt collectif, la Côte d'Ivoire, en fait, passe en premier.